venir discuter avec Marcel Gauchet de son dernier livre, Le Nouveau Monde, paru au début de l'année. Et on a voulu organiser cette rencontre pour parler d'un livre qui est vraiment un événement marquant à plusieurs titres. Donc, tout d'abord, c'est le quatrième tome d'une série qui en comporte trois, sous le titre « L'avènement de la démocratie ». J'ai apporté les trois premiers pour que l'on constate qu'il y a un ordre, une croissance notable dans la taille des volumes. Et c'est à la fois l'aboutissement, mais à lui seul, ce livre a été écrit pour pouvoir être lu de façon autonome, même s'il fait appel à beaucoup d'éléments des précédents ouvrages, mais à chaque fois, il y a des rappels. Donc, c'est à part entière un ouvrage, j'ose dire bouleversant, dans le sens où, on a lu Le Désenchantement du Monde il y a 30 ans, on voit l'aboutissement d'un programme de travail et quelque chose qui est franchement impressionnant et rare. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples d'un programme de travail accompli aussi systématiquement et qui démontre une ténacité assez remarquable dans l'effort pour comprendre le contemporain. Donc c'est le parcours proposé dans Le Désenchantement du Monde était une démarche d'histoire globale de l'humanité, parce que c'était ça la chose marquante à l'époque, mais qui était déjà inscrite dans l'objectif de comprendre le contemporain. Et c'est en prenant appui sur cette lecture globale de l'aventure humaine que Marcel Gauchet parvient à proposer dans ce dernier livre une vision globale, une interprétation globale de la situation dans laquelle nous sommes et en fait de ce qui s'est passé pendant qu'il écrivait en réalité. Donc il y a aussi quelque chose de très intéressant, et je pense que c'est un des points sur lesquels on peut discuter avec lui, de la transformation de son regard pendant cette période, puisque le projet initial n'avait pas comme ligne de mire la critique du néolibéralisme qui ne s'était pas encore épanoui comme on l'a vu au cours des dernières décennies. Et donc dans ce cas, on peut véritablement dire que c'est le présent qui rend le passé intelligible. Et c'est la marche du présent qui a rendu intelligible l'ensemble de l'histoire de l'humanité qu'a proposé Marcel Gauchet dans ses volumes. Alors j'en parle au passé pour dire que c'est un point d'arrivée, mais en même temps, et c'est cela dont on va parler aujourd'hui, c'est un point de départ pour cette compréhension du présent. Ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas simplement lire ce livre comme la clôture d'un programme de travail, mais au contraire, l'ouverture de quelque chose de nouveau qui est une possibilité de compréhension du monde dans lequel nous sommes, dans cet univers très étrange sur lequel Marcel Gauchet propose un diagnostic. Alors, il a beaucoup de formules frappantes comme il sait le faire, mais je retiens peut-être pour commencer la formule d'une société de la méconnaissance, parce qu'au fond, c'est exactement là où nous sommes. C'est-à-dire que c'est une société qui a les moyens de se connaître comme jamais, qui a multiplié les connaissances de soi, les techniques d'investigation d'elle-même à travers les sciences sociales, mais qui, dans le même temps, ignore totalement son fonctionnement réel. Je reprends quelques citations, une qu'on trouve au début du livre, dans laquelle Marcel dit la vie consciente est enfermée hypnotiquement dans une zone rééclairée, réduite à l'individu et à ses droits. Le reste se perd dans la pénombre. Donc à la fin du livre, il propose d'expliquer cet aveuglement en parlant d'une désymbolisation. Le thème revient au fil du livre, mais il y a quelques pages vers la fin qui présente de façon très synthétique cette structure étrange où ce qui nous tient ensemble, la structuration politique de la vie collective, est passé dans l'ombre et dans l'implicite. Ce qu'on ne voit de nous-mêmes, ce qu'on comprend spontanément, est simplement réduit à cet individu de droit d'un côté, mais qui est aussi l'individu du marché, l'individu consommateur. Et un troisième niveau totalement déconnecté, qui est celui de ce savoir, de cette connaissance du social, qui n'a pas prise. Ou alors, justement, c'est la question. Comment cette connaissance, cette compréhension que propose Marcel Gauchet ou d'autres, par les sciences sociales, du fonctionnement réel de la société, peut malgré tout être reconnectée à cette individualité isolée pour permettre, et ça c'est un autre thème qui intervient dans les dernières pages du livre, pour permettre cette auto-réflexion, c'est-à-dire une véritable réflexion sur les conditions de possibilité d'une société démocratique fondée sur des individus, puisque le seul principe de légitimité d'une société démocratique telle que nous l'avons est cette idée d'une égale liberté des droits. Ceci donc juste pour poser très globalement la question qui est assez centrale et massive que présente Marcel Gauchet dans ce livre. Je dirais donc juste très rapidement avant de présenter les intervenants, pour donner à ceux qui n'auraient pas encore lu dans le détail cet ouvrage imposant, disons, de 700 et quelques pages. Donc les premiers chapitres proposent un cheminement, expliquent ce qui s'est passé, cette révolution invisible, en partant, et donc c'est un point de départ intéressant et un peu, peut-être pour certains, surprenant, puisque ce n'est pas un terrain sur lequel on attendait Marcel Gauchet, celui de la crise économique et de la transformation économique des sociétés occidentales, et d'une crise économique qui a été, alors qui n'est pas un déterminant, Marcel Gauchet n'a pas été brusquement converti au marxisme, mais qui n'a pas été un déterminant, mais un déclencheur d'une transformation globale des sociétés où les États ont perdu la prise qu'ils avaient auparavant sur la transformation sociale. Crise économique qui s'enclenche sur l'avènement de ce néolibéralisme très étrange, donc c'est le deuxième chapitre sur les cas Thatcher-Reagan, et suit, alors dans la continuité du précédent volume, la déconstruction idéologique de la plausibilité du socialisme, pas du socialisme comme idéal, mais la plausibilité d'une société socialiste. Et le bilan de cette révolution invisible, c'est de proposer que nous ayons vécu l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. Et le mot « ultime » ici est pris au sens le plus fort, et je pense qu'on y reviendra parce que c'est une affirmation marquante, c'est le dernier tournant après lequel il n'y en a pas d'autre. Nous serions, si on pose la question, nous serions définitivement sortis du théologico-politique. C'est peut-être une des affirmations les plus frappantes et les plus fortes, mais qui donne une clé d'interprétation de l'ensemble de la situation. Et donc la partie centrale du livre, la plus importante, formule une sorte de diagnostic sur différents plans de cette transformation. Et tout d'abord, donc, c'est ce que Marcel Gauchet appelle une radicalisation de la modernité. Donc ça va à l'encontre d'un discours qui s'est répandu au moment de l'avènement du néolibéralisme, qui était la notion de post-moderne, nous aurions dépassé la modernité. Tout au contraire, explique le livre, nous avons vécu une radicalisation. Nous ne savions pas ce qu'était la modernité et nous l'avons découvert sans savoir ce qu'elle était, sans savoir ce qui se passait véritablement. Et donc cette radicalisation de la modernité a pris une sorte de visage opposé à celui qu'on attendait. C'est pas la modernité comme saisie consciente de soi, des sociétés, c'est au contraire une déprise totale et une perte de vue de ce que nous faisons. Alors, le diagnostic passe par l'examen de la mondialisation. Alors, on en parlera longuement. Mondialisation qui n'est pas simplement celle du marché, mais aussi celle des États-nations. C'est le principe de l'État-nation qui se mondialise. Et au fond, ça, c'est aussi une des thèses les plus fortes du livre et les plus originales, je pense, qui affirme qu'il faut voir derrière les transformations en cours une mondialisation de ce principe, donc qui maintient un politique dans une position de structuration des sociétés. Ce qui est un autre chapitre qui insiste sur cette dimension symbolique de l'organisation collective assurée par les États que nous ne voyons plus. Donc c'est un peu ça ce mystère de notre situation, avec en contrepoint une émergence donc, d'autres figures qui occupent la place laissée vacante un peu par cet État, qui est l'émergence de la société civile et l'importance prise par l'espace public médiatique. Bon, je brosse à grands traits le tableau qui est fait, mais la lecture montre effectivement des détails très frappants et, disons, Marcel Gauchet est d'autant plus convaincant qu'il y a des petits points d'accroche que nous comprenons instantanément, comme notamment la démonstration de la signification anthropologique de la télécommande, de la zapette a un sens très fort. Et effectivement, je pense que c'est une des pages les plus frappantes du livre, où un tout petit détail de notre modernité prend un sens, une signification très forte. Alors, le contrôle que prend l'individu sur la télévision et ce qui lui est imposé, il est libre de choisir sa chaîne et comment il la regarde. Alors, autre point, ce sont là, comme les lecteurs de Marcel Gauchet le savent, un axe de son travail a toujours été de réfléchir sur les temporalités, l'organisation, les orientations vers le passé, le présent, le futur. Et ici, on a un chapitre très, très important qui montre là une sorte de désarticulation de ces dimensions temporelles, en parlant d'une déthéologisation de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire ne constitue plus une unité. Hein, c'était un des éléments par lesquels, dans notre monde qui se croyait moderne, il restait des traces, des éléments d'une structuration hétéronome. C'est cette pensée de l'histoire comme un tout, et que le passé, présent et futur ne fassent qu'une unité. Donc c'est la fin de cette unité de l'histoire qui nous laisse à la place une fracture véritable d'un passé qui n'est saisi que comme patrimoine. Donc c'est des thèses qu'on avait déjà lues sous la plume de Marcel Gauchet, mais c'est très frappant et de relire dans la totalité ces différents éléments. Donc un présent branché sur l'actualité immédiate sans profondeur temporelle et un avenir alors infigurable autrement que par les chiffres de l'économie. Et un investissement dans le futur qui se résume à l'investissement économique capitaliste de l'avenir. Donc là aussi, on a des pages très fortes et on trouve des pages où, finalement, au bout d'un certain temps, Marcel Gauchet s'explique directement avec Karl Marx, ce qui est... ceux qui s'intéressent à la question jugent, comme c'est mon cas, les pages un peu courtes. On aimerait en avoir un peu plus de mais c'est en tout cas des points très forts de cette déstructuration des temps, on pourrait dire. Et le dernier chapitre de ce diagnostic global porte sur la question des droits, et donc ça c'est aussi un thème important, qui est approfondi, et je pense que c'est un des points où Marcel Gauchet dit avoir un peu changé de point de vue aussi sur sa compréhension du rôle du droit, et donc ce nouveau moment des droits de l'homme qui affirme cette question de la légale liberté comme seul fondement, seul principe de légitimité moderne, avec tout ce qu'il importe et tout ce qu'il comporte avec lui. Et ce point terrible, c'est qu'on ne voit plus que cela. Donc c'était ce que j'énonçais en introduction. Le bilan, donc la troisième partie, qui est une sorte de conclusion en deux temps, décrit l'autonomie comme un problème. Donc au fond, ce qui s'est passé dans cette révolution invisible, c'est que toutes les traces qui pouvaient rester d'éléments d'hétéronomie, c'est-à-dire d'une détermination des sociétés par autre chose qu'elles-mêmes, sous des formes complexes, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'autonomie que nous découvrons nous apparaît comme un problème. Et c'est ici, dans ces pages, où Marcel Gauchet présente le programme néolibéral comme le programme qui s'adapte le mieux aux nouvelles circonstances, qui s'adapte sans effort, qui convient spontanément à ces nouvelles circonstances d'un individu libre, isolé, qui se socialise par l'économie ou par la revendication des droits. Avec une description donc très intéressante de cette idéologie qui comporte en fait deux branches complémentaires solidaires dont on ne voit pas la solidarité quand on observe leur opposition. Hein. D'un côté, revendication de plus de droits, enfin extension des droits à tout le monde, qui est le programme de la gauche rebelle, on pourrait dire. De l'autre côté, le marché comme compétition des individus, donc l'économie comme lieu d'une compétition justifiant des inégalités. Par la liberté même. Donc ces deux branches sont en réalité solidaires et ignorent dans les deux cas ce fondement collectif politique qui rend possible la structuration par le droit ou le marché. Et la dernière partie, donc intitulée « Le possible et l'impossible », dessine quelques pistes justement de le sens vers lequel nous pourrions aller en proposant effectivement cette notion d'un besoin d'une auto-réflexion. Hein, nous sommes dans des sociétés très réflexif par certains côtés, mais en réalité irréfléchi. Donc Marcel Gauchet propose des pistes pour aller vers cette autoréflexion qui aurait à rendre compte des conditions de possibilité d'un fonctionnement autonome. Donc ça ne peut pas être une réflexion purement abstraite, philosophique, qui déduirait des principes. C'est vraiment une réflexion sur quelles sont les conditions de possibilité à l'épreuve de cette histoire. Et on voit bien dans ce projet que l'aspect philosophique et l'aspect historique de la démarche sont totalement solidaires. Donc voici pour dessiner très, très rapidement et synthétiquement la structure d'un livre dont chaque partie appelle à des développements, à des discussions spécifiques, mais qu'il faut en même temps considérer comme un tout, comme une totalité et comme un projet d'interprétation du monde présent. Et donc dernier point sur lequel j'insiste, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu avoir cette rencontre, c'est en réalité si on veut aujourd'hui formuler une pensée critique, c'est-à-dire une pensée critique de l'idéologie néolibérale, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit, de comprendre à quoi nous avons affaire. Et à ce titre, je pense que le nouveau monde est un des meilleurs outils d'une pensée critique aujourd'hui. Et donc, Marcel Gauchet est un intellectuel fondamentalement critique. Et donc, le contraire d'un réactionnaire, mais ça, je pense que tous les gens présents ici le savaient déjà. Donc, trêve de plaisanterie, je voudrais juste expliquer le principe, c'était d'avoir des lectures multiples, puisque c'est un livre vraiment pluridisciplinaire, donc de choisir des intervenants situés chacun dans une discipline, mais capables de dialoguer à un niveau plus global avec une interprétation d'ensemble de la société contemporaine. Donc Gaël Giraud parlera en premier en tant qu'économiste, puisqu'il est économiste au CNRS, économiste en chef de l'Agence française du développement et en même temps, par ailleurs, jésuite, ce qui est assez, deux titres donc d'économiste et de religieux. Je parlerai. Nathalie Doyle, qui est politiste, qui donc est à Monash University à Melbourne, qui traduit et commente l'œuvre de Marcel Gauchet en anglais, interviendra ensuite pour parler de la mondialisation. Alors à chaque fois, les interventions seront suivies d'une réponse de Marcel Gauchet et d'un moment de discussion, donc dans lequel vous pourrez intervenir pour poser des questions. Mais la pause sera quand même assez brève pour qu'on ait le temps après d'entendre Nicolas Rousselier, qui est historien du politique contemporain à Sciences Po, qui parlera donc de cette question de l'État contemporain, puis Frédéric Brahami, qui est philosophe et historien de la philosophie à l'EHESS, qui lui parlera de la philosophie de Marcel Gauchet, la philosophie de l'histoire de Marcel Gauchet. Et donc après chaque discussion, il y aura un temps de discussion, et sans doute à la fin, pour ceux qui le souhaitent, une discussion plus générale. Voilà, donc je m'arrête ici et je laisse donc la parole à Gaël.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer autour de ce livre qui est un grand livre. Je pense que la force des grands livres est de nous mettre en mouvement et de nous donner à penser. Alors c'est ça que je vais essayer de vous restituer en quelques minutes. Je vais aborder deux points, donc deux parties. Une première, je vais dire l'ensemble de mon accord profond avec une grande partie des thèses de l'ouvrage. Et puis, dans une deuxième partie, comme j'entends parler quand même de l'ultime tournant théologico-politique de l'histoire, comme religieux jésuite et prêtre catholique, je vais essayer de dire un mot sur la manière dont je reçois cette thèse. Donc je vais parler avec deux casquettes, une casquette comme économiste et une casquette comme religieux catholique. Sur la première partie, j'ai un accord de fond avec une grande partie des thèses défendues par Marcel Gauchet sur le déroulement historique de l'économie mondiale, européenne en particulier, Atlantique Nord, disons, depuis les années 70. Donc, le démarrage de l'ouvrage, c'est la thèse qui s'inaugure quelque chose de fondamental dans les années 70, ce à quoi je souscris complètement. Pas simplement les deux chocs pétroliers, mais évidemment aussi l'abandon d'une partie de l'esprit de Bretton Woods, hein, Marcel le souligne très très bien, avec une décision unilatérale des États-Unis de, au fond, mettre fin à des structurations qui avaient quand même permis une très très grande prospérité pendant une trentaine d'années, parce que l'économie américaine sentait bien que le Japon et l'Europe allaient probablement la dépasser. Et donc il y a une espèce de tentative de semer une confusion terrible dans l'ordre économique mondial de la part des États-Unis, tentative tout à fait délibérée à travers l'abandon de l'État noir pour essayer de récupérer une forme de suprématie. Et c'est là que se met en place une espèce de circuit dans lequel nous sommes encore en partie embarqués, où alors qu'en 1945, les États-Unis sont l'usine du monde, hein, c'est le seul grand pays à avoir un excédent industriel, avec la Suisse, mais la Suisse ne compte pas. Dans les années 70, c'est déjà, ça ne sont plus les États-Unis, et très bientôt, ce sera la Chine, 10 ans, 15 ans plus tard. Et d'une certaine manière, les États-Unis, avec une espèce de prémonition, ont mis en place un circuit au terme duquel c'est bien la Chine qui produit pour l'Occident, mais son extraordinaire excédent commercial, hein, 3000 milliards aujourd'hui, est recyclé par la sphère financière à Londres et à New York. Et donc, c'est une manière pour le monde anglo-saxon, et en premier chef les États-Unis, de s'installer comme récipiendaire de l'extraordinaire effort d'industrialisation de la Chine, bénéficiaire ultime. C'est-à-dire à la fois, ce sont les Américains qui en sont les consommateurs, en premier ressort, et puis ce sont eux qui récupèrent une excédent commercial parce que celui-ci trouve à s'investir dans la sphère financière. D'où la libéralisation des marchés financiers. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une reconstruction téléologique ex post de cette histoire, mais je crois que la manière dont Marcel décrit tout ceci est très très juste. Et au fond, d'une certaine manière, j'ouvre une parenthèse, hein, la crise de 2008, c'est la crise de ce cycle-là, qui aujourd'hui n'arrive plus à se remettre en place. Deuxième grand point, et là aussi j'ai un accord de fond avec Marcel, c'est la prise de pouvoir d'une certaine doctrine économique autour de Friedman notamment, et la conversion d'intellectuels socialistes et puis de politiques socialistes européens, français en particulier, au néolibéralisme. Là-dessus, je voudrais compléter en fait ce que dit. Je consonne tout à fait à ceci. C'est un point probablement inaperçu par nos socialistes eux-mêmes, qu'ils sont néolibéraux depuis presque 40 ans maintenant. Au moins depuis 30 ans, disons. Il suffit d'interroger le cercle étroit qui a travaillé avec Jacques Delors après 1983, après le grand tournant de la rigueur. Je voudrais vous signaler un complément à la thèse de Marcel, qui est le très beau travail de Rawi Abdelal, voilà, qui, je ne crois pas que ça ait été traduit en français, Capital Rules, les règles du capital, qui souligne que ce sont des socialistes français qui ont construit l'architecture mondiale du laisser-faire néolibéral international. Et pour ça, ça n'est pas Wall Street, ça n'est pas Londres. Pour ça, il fallait une vision universaliste à la française, typiquement, et il fallait l'utopie socialiste de faire le bien des autres à leur place. J'ajouterais que la plupart d'entre eux sont chrétiens. Pensez à Jacques Delors, pensez à Pascal Lamy, pensez à Michel Cordessus, qui aujourd'hui est un père de l'Église, hein, au Vatican. Ces gens-là sont chrétiens. Et donc, il y a en plus un aspect qu'on peut souligner, qui est que la conversion des socialistes au néolibéralisme est aussi une certaine conversion, ou disons une conversion d'une certaine frange du christianisme héritier, croit-il, du christianisme social, qui devient néolibéral lui aussi, en grande partie sans le savoir. Un autre point avec lequel je suis également tout à fait en accord, une grande thèse forte, à mon avis, de l'ouvrage de Marcel, c'est le fait que l'effondrement auquel on assiste aujourd'hui, c'est très impressionnant, du socialisme en Europe de l'Ouest, est en grande partie dû au fait que le socialisme, la tradition socialiste s'est construite autour de l'idée qu'il fallait abolir le salariat. Et l'expérience après la Seconde Guerre mondiale montre que le salariat, ça n'est quand même pas l'esclavage. Voilà. Qu'il y a une nuance. Voilà. Et du coup, le socialisme, au fond, est orphelin d'un vrai programme politique qui serait autre chose que l'abolition pure et simple du salariat comme tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à changer, en particulier sur ce que certains économistes appellent le marché du travail, et qui ne consiste pas forcément à mettre en œuvre la loi travail telle qu'on est en train de l'appliquer aujourd'hui. Mais en tout cas, comme programme politique, l'abolition du salariat devient une utopie difficile à porter aujourd'hui. Et je crois que c'est une des thèses fortes de l'ouvrage. Un autre point également fondamental, c'est la question de la montée de l'expertise comme symptôme d'un savoir fractionné de sociétés qui, et donc vous le disiez il y a un instant, hein, de sociétés qui n'arrivent plus à se déchiffrer elles-mêmes. Bon, c'est une thèse que vous connaissez bien, hein, la figure de l'intellectuel à la Jean-Paul Sartre disparaît dans les années 80 et est remplacée petit à petit par celle de l'expert. Alors, au fond, la présence de Marcel aujourd'hui témoigne du contraire. Il reste des intellectuels français qui essayent de proposer une herméneutique globale de notre histoire, hein, mais ils n'arrivent pas, et c'est très regrettable, à avoir la même audience que les experts qui prétendent donner un savoir objectif sur des zones très régionales de la connaissance et qui, au fond, ne font jamais l'effort d'essayer de proposer une herméneutique globale de l'ensemble des savoirs auxquels nous avons accès aujourd'hui. Et ça participe très certainement du paradoxe qui, à mon avis, est fondateur de l'ensemble du livre, hein, qui est la deuxième modernité, d'après Marcel, c'est l'extraordinaire difficulté que nous avons à être maître de nous-mêmes alors que plus personne n'est maître de nous à notre place. Hein, la première modernité, c'est nous nous libérons de l'hétéronomie. Et évidemment, là, la question de la figure du christianisme joue un rôle central dans cette libération. Hein. C'était déjà la thèse du désenchantement du monde. Les sociétés modernes sont des sociétés qui sont libérées de la tutelle de l'Église en Europe comme tentative institutionnelle d'instaurer un ordre social à partir d'une unité sacrale, pour reprendre l'expression de Marcel. On pourrait dire d'une énologie en pensant aux Grecs. L'autonomie moderne, c'est la libération de ceci. Et la deuxième modernité qui s'inaugure là, dans les années 70, c'est la prise de conscience progressive qu'il ne suffit pas de s'être libéré de cette tutelle, il faut ensuite apprendre à être libre. Pour reprendre l'expression de Marcel, au fond, l'histoire de la libération est derrière nous, mais l'histoire de la liberté est devant nous. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, la question de l'exculturation du christianisme, que souligne Marcel dans l'ouvrage, me semble fondamentale, et je ne peux qu'y souscrire. La question que je vais poser dans 30 secondes, c'est est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle, même pour les chrétiens. Alors, Ensuite, on l'a dit il y a un instant, Marcel défend la thèse qui me semble aussi très intéressante et à laquelle je souscris, qu'au fond, en dépit du discours idéologique ambiant selon lequel il n'y aurait que les marchés qui feraient l'histoire, les États-nations ont repris une force tout à fait intéressante à partir des années 80, notamment à la faveur de Reagan et Thatcher. Mais là, et donc c'est un premier élément de nuance, je crois qu'il faut, je trouve qu'on pourrait nuancer en disant c'est un certain type d'État-nation qui reprend, si je puis dire, du poil de la bête dans les années 80, et un État-nation qui est essentiellement mis au service de quelques intérêts privés très très particuliers. Alors, exemple de paradoxe, une illustration de ce paradoxe, hein, c'est la dette publique américaine explose sous l'administration Reagan. Jamais l'État américain jusqu'à Reagan n'avait été aussi dépensier, en dépit du discours reaganien qui est « l'État, c'est le problème ». Et donc, au fond, vous avez des économistes aujourd'hui qui relisent l'administration Reagan comme une période de keynésianisme très fort. Mais au fond, c'est un keynésianisme qui dépense beaucoup, et ce n'est pas très difficile de montrer que la dépense publique dans le circuit macroéconomique revient aux riches. Ce sont les détenteurs du capital, pour parler un vocabulaire qui n'est pas celui de Marcel, qui finissent par bénéficier de la dépense publique, mécaniquement. Ça prend 3 minutes, mais on fera ça une autre fois. Sauf si la dépense publique est elle-même orientée de manière délibérée du côté de ce qui serait une redistribution du surplus économique ou du partage de la valeur entre, disons, travail et capital, pour dire les choses de manière très rapide. Ce qui n'est évidemment pas le cas sous Reagan. Et donc, au fond, ce keynésianisme étatique reaganien, c'est un keynésianisme de droite, un keynésianisme qui va favoriser les élites économiques. Voilà. Et donc, l'État-nation qui se remet debout dans les années 80, c'est un État-nation qui a un programme, me semble-t-il, tout à fait particulier, qui n'était pas inscrit dans le programme westphalien ou kantien des années du XVIIIe siècle, qui est celui d'être lui-même assujetti aux intérêts particuliers d'une toute petite élite. Alors j'en dirai autant à propos de la question du droit. Je souscris aussi complètement à l'analyse du droit qui est faite par Marcel comme, disons, quelque chose qui a participé à l'atomisation des relations sociales, hein, dans la mesure où celles-ci, les relations humaines, sociales, ont été réduites à la faveur du néolibéralisme, hein, à des relations complètement judiciarisées entre atomes individualisés, ce qui rend impossible la compréhension et l'intelligence de la société comme lien social. Dans le même temps, ça veut dire à mes yeux que ce droit-là, est-ce que c'est le droit comme tel, du coup, qui devient complice du programme néolibéral, ou bien est-ce que c'est une certaine figure du droit qui est lui-même assujettie à une logique économique, disons, néoclassique, néolibérale? Et ça, par exemple, c'est la grande thèse d'Alain Supiot. Et donc, je trouve que là, il y a un vrai débat que moi, je ne peux pas instruire, il faudrait qu'Alain soit là, entre la lecture par Alain Supiot de la déviance du droit ou de la déformation ou de la manipulation, l'instrumentalisation du droit par le néolibéralisme et la lecture qu'en fait Marcel Mauchet. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup d'entendre Marcel sur ce point. Une autre thèse avec laquelle je suis également fondamentalement en accord, c'est ce que Marcel appelle l'impasse suicidaire du néolibéralisme à travers 2 points fondamentaux qui sont la succession des crises financières et la question écologique. Ce n'est pas le thème majeur dans l'ouvrage, hein, mais il est clair pour moi comme économiste que les marchés financiers tels que nous les avons construits aujourd'hui ne sont pas et ne peuvent pas être immunisés contre les crises financières. Donc, mais ce n'est pas un scoop pour vous, je suppose. Une autre crise est en préparation aujourd'hui, certainement. Et puis, ce néolibéralisme-là est incapable de prendre en compte les externalités que nous exerçons sur l'écologie. Un premier point de questionnement, au fond, hein, par rapport à cette thèse sur laquelle je suis fondamentalement en accord. Pour ce qui est du tournant des années 70, et je dis ça parce qu'à la fois Mathieu est ici et Michel est là, Mathieu Arnaud et Michel Le Petit, il y a un autre élément, je crois, qui gagnerait à être souligné, qui est le rôle des ressources naturelles. Ça n'est pas complètement un hasard si c'est une crise pétrolière qui est un des symptômes de ce retournement. Quid de la question de savoir pourquoi, à partir des années 80, les économies occidentales n'ont jamais retrouvé les taux de croissance dont elles ont bénéficié pendant les 30 glorieuses. Alors, on peut en débattre beaucoup, hein, mais ça veut dire, à mon avis, que la question du passage d'une économie construite essentiellement sur le pétrole vers une économie construite sur autre chose, et il y a une transition qui s'opère dès les années 80, est-ce que celle-ci n'a pas un rôle à jouer dans le grand récit que vous proposez à partir sur le tournant des années 70? Ça, c'est un premier point. Le deuxième, je voudrais, au fond aussi, poser une grande question à l'ouvrage qui est tout en souscrivant à la thèse de « nous sommes encore en train d'apprendre à devenir des modernes ». Donc, ce n'est pas du tout la thèse de Latour qui dit qu'on n'a jamais été moderne. C'est « nous ne sommes pas encore suffisamment modernes ». C'est ça la position de Marcel, je crois. La question que j'aurais envie de poser, c'est comment faire. Et là, donc, alors ce n'est pas pour dire une insatisfaction, mais je pense que c'est là que ça nous met tous en mouvement. C'est quelles sont les médiations par lesquelles on peut avancer pour d'abord sortir du néolibéralisme suicidaire dans lequel nous sommes enfermés et ensuite construire ou faire advenir cette démocratie que Marcel, comme nous tous, appelle de ses voeux. Et là, je crois qu'il y a une difficulté qui est l'intelligence des conflits sociaux. Il y a un point quand même, je trouve, dans les quatre ouvrages, les quatre volumes, qui est quelle est la place que, et au fond c'est une question, on pourrait dire épistémologique, hein, quelle est la place du conflit social dans la philosophie de l'histoire et de la société que vous nous proposez. Voilà. D'une certaine manière, tout se passe un peu comme si, mais c'est sans doute caricatural, parce que ce que je viens de dire sur la relecture de l'histoire économique mondiale des 40 dernières années prouve que ce que je dis là à l'instant est caricatural, mais tout se passe quand même comme si les rapports sociaux et les rapports de pouvoir, de violence dans l'entreprise, sur les marchés, étaient une toile de fond sur laquelle, au fond, vient se greffer une problématique essentiellement politique, qui est comment la société civile, l'État, peuvent-ils acquérir une légitimité qui leur permet d'honorer l'autonomie de la société ? Comment est-ce que l'autonomie va de pair avec la légitimité de l'État ? Voilà. Et donc, du coup, là-dedans, si on se dit, bon, nous sommes pris dans une impasse historique, qu'on peut appeler le néolibéralisme, pour faire court, comment est-ce qu'on en sort ? Comment est-ce qu'on fait advenir autre chose à l'intérieur de la démocratie parlementaire libérale que propose Marcel ? Peut-être que ça suppose une intelligence des rapports sociaux et des conflits sociaux. Et peut-être ne peut-on pas en sortir sans entrer dans un conflit, dans un rapport de force. Et si oui, lequel et comment est-ce qu'on met ça en œuvre ? Voilà. Alors, ensuite, je voudrais revenir un tout petit peu sur... Donc, je prends maintenant une casquette plutôt de religieux jésuite, catholique, interpellé par la thèse, sur la grande thèse, au fond, qui court depuis le désenchantement du monde, qui est, au fond, le premier tome de ces cinq tomes, jusqu'à celui-ci. Pour dire ceci, moi, je ne peux que souscrire à la grande thèse de Marcel selon laquelle le christianisme est la religion de sortie de la religion. Mais pour bien l'entendre, ça suppose d'entrer un tout petit peu dans la complexité de ce que c'est que le christianisme. Alors, je ne peux pas faire le grief à Marcel de ne pas être entré dans les débats des théologiens, mais en même temps, comme c'est une thèse qui porte sur le christianisme, on ne peut pas ne pas y répondre sans de nouveau, enfin, d'une certaine manière, accepter, consentir à entrer dans la complexité du christianisme lui-même, qui est très très loin d'être homogène. Alors, une manière de le faire, c'est de dire, au fond, vous avez toute une tradition théologique, et je nomme quelques noms pour aller très très vite, hein, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer du côté du protestantisme, hein, Karl Barth calviniste, Bonhoeffer luthérien, mais aussi Karl Rahner du côté catholique, qui consent tout à fait à dire, il y a d'un côté la religion instituée, le christianisme que nous connaissons tous, et puis il y a l'expérience de foi, ce sont deux choses distinctes. Et d'ailleurs, dans ce dernier tome, Marcel reconnaît très bien que l'expérience de foi peut contribuer au débat démocratique. Et d'une certaine manière, ce qui n'était pas complètement clair dans le désenchantement, ça m'intéresserait de savoir si vous trouvez que vous avez vous-même cheminé sur cette question, parce que par ailleurs, on voit le même cheminement chez quelqu'un comme Habermas. Hein. Habermas, John Rawls, après avoir été très très réticent à consentir à ce que les traditions religieuses, spirituelles puissent contribuer au débat démocratique, aujourd'hui, il l'appelle très volontiers. Il y a quelques pages dans le quatrième tome qui vont dans ce sens-là et qui me semblent aller plus loin que ce qu'on entendait dans le désenchantement du monde. Il n'en demeure pas moins qu'il faut faire la distinction entre la religion comme telle et l'expression, l'expérience de la foi. Et je vous donne un exemple caricatural. Le Rwanda de 1994 est catholique à 99,9%. Les églises sont pleines. Ça n'a pas du tout empêché le génocide. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir une société qui est structurellement catholique et qui fait le pire, qui commet le pire. Quelque chose dont, quand même, on ne peut pas dire que ce soit directement rattaché à l'Évangile. Voilà. Simplement, maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on reconnaît qu'il y a une distinction à opérer entre l'expérience de la foi et la religion instituée, la question se pose de savoir si l'expérience de la foi elle-même peut contribuer au débat public. Est-ce qu'elle a un rôle politique à jouer ? Vous voyez ? Alors, je prends un autre exemple pour... illustrer ça, vous avez peut-être vu le film Silence dit non. Voilà. L'expérience de la foi, c'est une expérience intérieure qui n'a plus d'expression politique. Ça, au fond, c'est la grande thèse du libéralisme protestant du 19e, contre laquelle des grands théologiens comme Karl Barth vont, à laquelle ils vont s'opposer. Et donc j'interroge un tout petit peu cette question. Est-ce que le christianisme dont il est question, c'est simplement une religion instituée qui a évidemment commis des atrocités et qui a eu une complicité avec l'État, au fond, depuis le tournant constantinien, depuis la paix de Constantin, jusqu'à au moins la séparation de l'Église? Est-ce que c'est ça, uniquement? Ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose? Alors, quoi d'autre? Alors là, il faut revenir, par exemple, au deuxième tome, la relecture que fait Marcel d'une partie du 19e siècle. Au 19e, on a aussi Lacordaire, Lamennais, Ozanam, Victor Hugo, Jules Michelet et quelques autres, qui sont eux-mêmes condamnés, pour certains d'entre eux, par le Saint-Siège, qui sont eux-mêmes condamnés par Louis-Philippe, dont François Guizot est le ministre, et qui montrent qu'il n'y a pas un seul visage du christianisme, il y en a plusieurs. Et il y a aussi un christianisme qui s'insurge contre les injustices, un christianisme qui est sensible à la question sociale. Voilà. Et du coup, qui est sensible aussi, et c'est pour ça que j'y reviens, à la question des conflits sociaux. Lamennais, comme vous le savez, finira par prendre une position très très dure dans le débat politique, y compris contre sa propre institution ecclésiale. Voilà, donc ça c'est une question à mon avis que je voudrais vraiment poser à l'ensemble du parcours de l'œuvre. Après, il y a quelques sous-sujets, je vais aller très très vite parce que j'ai pris trop de temps, pour aller très très rapide. La relecture que fait le premier tome sur la réforme, mais là il faudra laisser la parole aux historiens. Vous connaissez sûrement le travail magnifique d'un historien du droit, Harold Berman, un Américain, sur la question de la réforme comme, disons, déconstruction partielle de ce qui s'est inauguré à la réforme grégorienne au XIe siècle, et tentative au fond de transférer le lieu symbolique du religieux à l'intérieur de l'État. Luther, c'est celui qui conçoit un État église. Donc c'est pas quelqu'un qui sort, qui déthéologise la société allemande. Au contraire, c'est quelqu'un qui rethéologise l'État à la faveur du rejet de l'Église catholique. Donc il substitue en fait au vieux débat médiéval le pape contre l'empereur ou le roi de France une autre figure, le prince luthérien, qui est aussi l'autorité religieuse. Mais du coup, ça pose une énorme question qui est qu'est-ce que c'est que cet État-nation-là, qui est aussi religieux? Qu'est-ce que c'est que ce prince allemand qui a aussi une autorité religieuse? Et en tout cas, ça ne va pas dans le sens de la thèse globale de la déthéologisation. Alors évidemment, après, il y a une relecture de Luther par d'autres, Max Weber et d'autres, mais les écrits de Luther sont très clairs sur ce plan-là. Et la guerre des paysans, der Bauernkrieg, montre que Luther, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est favorable à la population pauvre. C'est quelqu'un qui est très très favorable aux élites marchandes des grandes villes rhénanes, notamment en Allemagne. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir la lecture de Kant par Marcel, parce que c'est quand même, je trouve, la grande ombre tutélaire qui flotte sur tout ça. Le grand penseur de l'autonomie, de la Selbstständigkeit en allemand, c'est quand même Kant. La question de la modernité, c'est quand même aussi chez Kant que ça s'inaugure. Alors comment est-ce que, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que Marcel vous vous situez par rapport à l'Aufklärung au sens kantien. Autre question, Karl Polanyi. Et là, c'est plutôt une question que je pose sur le troisième volume, sur les totalitarismes, qui dit en gros que, et je souscris complètement à cette thèse, les totalitarismes ne sont pas indépendants de la grande vague, de la première mondialisation de la fin du 19e, mais sont une réponse évidemment catastrophique à la crise du libéralisme que Marcel analyse dans son deuxième tome. La thèse de Polanyi ressemble à celle-ci, mais est différente, et donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, qui est les totalitarismes des années 20-30, et 40, sont une réponse au risque de désocialisation, de déliaison que provoque la tentative de privatisation de la société qui s'inaugure pour la première fois à la fin du 19e. Et ça, alors je pose cette question parce que la réponse qu'on va apporter à cette question va conditionner évidemment la lecture qu'on peut faire du néolibéralisme aujourd'hui et de la manière d'en sortir. Si je suis polanien aujourd'hui, je peux relire l'événement néolibéral comme une réédition de la tentative d'une privatisation absolue de la société, d'une marchandisation de nos relations sociales. La montée de l'extrême droite en Europe aujourd'hui, y compris au Parlement allemand, avec l'AFD, l'autre, pas la mienne, die Alternative für Deutschland, comme la réponse, de nouveau, comme dans les années 30, une réponse antidémocratique, violente, à l'angoisse de la déliaison. Alors tous ces thèmes-là sont présents dans le fil, dans le grand récit de Marcel, et en même temps ne débouche pas sur la thèse de Polanyi et sur la question de la déprivatisation, puisque la question, par exemple, du rapport à la propriété privée, même si elle est évoquée, ne devient jamais le nœud central du débat. Et on peut très bien être favorable à une déconstruction de la propriété privée sans être marxiste, ni marxien. Une dernière question. Donc là, je reprends mon chapeau d'économiste. Sur la question néolibérale, je crois que ça vaut la peine quand même de dire, de se redire, que l'ensemble des thèses de l'économie néoclassique sont fausses, que l'économie néoclassique sert aujourd'hui de paravent scientifique à une prise de pouvoir qui est extrêmement violente, et qu'au fond, ces thèses qu'on enseigne un peu partout sont de l'idéologie. Vraiment, je ne crois pas aujourd'hui, comme économiste, je ne vois pas comment l'analyse néoclassique pourra résister à l'histoire. Je suis convaincu que d'ici quelques décennies, peut-être, j'espère en tout cas, on relira les manuels néoclassiques qu'on enseigne aujourd'hui partout, en leur accordant le même statut que les livres savants des médecins de Molière. Vraiment. Donc je trouve que ça vaut la peine d'être dit. Et du coup, ça donnerait une pointe à la critique du néolibéralisme très très forte. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.
Capable de répondre de façon optimale, employer le langage de la bonne théorie à toutes ces questions, je vais faire de mon mieux pour essayer de les reparcourir. Alors, je vais laisser de côté parce que il faudrait revenir sur des faits, sur, par exemple, à quoi sert sur les parties où nous sommes essentiellement d'accord avec des accords mineurs ou des défauts d'accent qui tiennent en partie à la perspective de mon analyse, qui ne se voulait évidemment pas une analyse globale de la situation économique, mais la réponse à une question précise, comment ce qui n'est qu'une crise économique particulière, mais de style classique, des déséquilibres du circuit économique, peut-elle précipiter une transformation globale des sociétés à l'échelle planétaire ? En réarticulant l'ensemble des paramètres qui interviennent dans une économie. Donc, je laisse de côté, par exemple, toute la réinterprétation du rôle des États-nations dans ce système, et en particulier sur un plan où vous n'avez pas prononcé le mot, la dimension stratégique. Parce qu'après tout, des États peuvent se désintéresser de la gestion, mais en revanche, jouer un rôle d'orientation stratégique majeur, tout en ayant l'air de reculer sur le plan de leurs fonctions habituelles, ils conservent l'essentiel, qui est finalement la conduite des sociétés, et ils le font d'autant mieux qu'il y a, pour ainsi dire, une exclusion de ce rôle stratégique du débat public. Ça ne fait pas partie, justement, de la sphère de la discussion politique habituelle, et ça relève d'un niveau beaucoup plus en caché qui n'arrive jamais pratiquement dans la discussion publique. Bon, alors, tout de même un point important sur ce que vous avez soulevé à propos du rôle des conflits sociaux dans l'histoire. Alors, j'ai voulu redresser la barre, et peut-être quand on redresse la barre, on a tendance à la porter trop loin dans le mauvais sens, dans l'autre sens, par rapport à une interprétation qui fait des conflits sociaux dans nos sociétés le facteur de leur autocréation, en quelque sorte, le moteur. Alors, oui, c'est un moteur, mais c'est un moteur qui consiste toujours à exploiter des potentialités qui sont là inscrites dans un champ beaucoup plus global. L'exemple paradigmatique à cet égard, c'est la grande réforme de nos sociétés, qui est la réforme de l'après-1945, quand les élites bourgeoises, disons, dans les sociétés libérales occidentales, se convainquent de la nécessité de tarir les sources du totalitarisme dans tous les sens. Il y a un moment donné, le prix à payer est tel que tout ce qui était réputé impossible quelques décennies plus tôt, devient subitement possible. Ça, c'est le miracle de 1945, où évidemment que les luttes sociales ont joué un rôle tout à fait déterminant, mais en fonction d'un projet qui n'était pas, qui était très loin d'être conscient, mais qui consistait en fait à réarticuler les sociétés d'une manière à éviter les phénomènes de dissociation catastrophique qu'on avait vus à l'œuvre depuis le début du XXe siècle, en fait, et dont les totalitarismes avaient été l'expression majeure. Donc je crois qu'il y a il faut considérer toujours les deux éléments, et pas un seul, au fond, hein, pour dire les choses, et je crois que nous sommes exactement dans une situation du même type, de ce point de vue. Alors, la difficulté étant que, dans le contexte où nous sommes, la désarticulation de nos sociétés, qui est très avancée sur un certain plan, et dont les mouvements politiques que vous évoquiez, qu'on appelle populistes, n'est qu'un élément, pose un problème de fonctionnement global qui appelle, au-delà même de luttes précises sur le champ du partage économique, en quelque sorte, une reformulation, tout simplement, de ce qu'est une société et des conditions dans lesquelles elle peut fonctionner d'une manière à peu près satisfaisante pour l'ensemble de ses membres. Là, nous sommes... c'est pas simplement qu'il y a lutte sociale, c'est parce qu'il y a des raisons d'être mécontent. Elles existent toujours. Elles auront toujours des motifs d'être. C'est parce qu'à un moment donné, ces luttes sociales mettent en cause l'idée même qu'on peut se faire de la communauté politique à laquelle on appartient. Je crois que c'est cet élément-là qu'il faut considérer, justement en sortant du strict schéma auquel nous ont habitués les luttes sociales du passé, qui est une lutte essentiellement économique. Aujourd'hui, on voit bien que ça va tout à fait au-delà. Alors, évidemment, par rapport à la religion, j'avoue tout simplement, quand j'écrivais Le désenchantement du monde, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Quel peut être le rôle de ce qui subsiste de la foi comme expérience individuelle fondamentale dans un monde sorti de la religion, pour aller vite. Ce que j'avais bien dit fortement à l'époque, c'est qu'il ne fallait pas confondre sortie de la religion au sens de la structuration collective et disparition de la religion, ce qui était le leurre dans lequel on a vécu pendant... C'est le faux débat qui dure depuis le 19e siècle, ou bien avec, du coup, ce balancement permanent entre l'annonce du retour de la religion parce qu'on constate qu'il reste des croyants et le constat que le rôle social de la religion recule, donc elle va disparaître. C'est ni l'un ni l'autre. Les deux phénomènes, en fait, se révèlent indépendants. Mais je ne m'étais pas posé du tout la question de ce rôle dont vous parlez. Or, et c'est depuis lors que, soumis à cette interrogation, j'ai effectivement, non pas évolué, parce que, encore une fois, j'ai plutôt rempli un vide qui, dans mon analyse, qui est une tache aveugle que j'avais laissée en friche. Ce qu'il faut commencer par souligner, c'est la nouveauté radicale de la situation où nous sommes de ce point de vue. Historiquement, depuis qu'on connaît des religions, et se sont définies pour l'essentiel, ne disons pas que seulement, en fonction de leur rôle social et politique. Ça a été ça, ça demeurait l'axe essentiel, même si là-dedans, dans les marges en fait, et avec des degrés de reconnaissance qui varient historiquement, on admettait très bien qu'il y avait une expérience spirituelle individuelle que les églises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, s'efforçaient d'encadrer en lui donnant sa place bien marquée dans le paysage pour que ça ne déroge pas le reste. Parce que c'était une partie de la chose, mais il ne fallait pas en exagérer, disons. Ce à quoi nous insistons, c'est à la fin des religions sociologiques, dont le rôle essentiel pour la masse des croyants et l'intégration dans un fonctionnement collectif. Avec tout ce que ça signifie, effectivement, de fabrication des communautés à la base, d'intégration à un niveau plus élevé, et de ritualisation du cycle de vie. Parce que fondamentalement, pour la masse de la population, c'était ça, la fonction sociologique, indépendamment de la structuration politique qui était en dehors de la vision, elle était décisive. Mais cette ritualisation du cycle de vie, de la naissance à la mort, était le cœur de l'expérience religieuse de la masse de la population. Et ça, c'est en train, potentiellement, de se marginaliser, sinon de disparaître. Et ça laisse donc une religion dans un rôle totalement nouveau, où ce n'est pas simplement le fait qu'un certain nombre d'individus ont une expérience de la foi qui leur est propre dans un univers par ailleurs normé par la religion, c'est que c'est cela qui devient le cœur de la vie religieuse. Et quel rôle cela peut jouer dans la démocratie ? Alors, la chose à laquelle je ne crois pas du tout, c'est que ça soit une expérience intime. Ça l'est. Mais est-ce que ça veut dire qu'une expérience intime est destinée à rester dans la sphère intime ? C'est deux propositions totalement différentes et qu'il faut bien disjoindre logiquement. C'est un élément que, pour un certain nombre de personnes, est mis au cœur de leur identité d'individu, dans toutes les dimensions de leur individualité, y compris sociale et politique. Ça crée évidemment une vision du rôle qu'on peut jouer dans sa société et du projet qu'on peut proposer à cette société, étant entendu que ce projet obéit à une contrainte forte, il doit avoir une valeur, y compris pour ceux qui ne partagent pas cette foi. C'est pas l'hégémonie, il ne s'agit pas de réinstaurer une hégémonie quelconque d'un parti des individus religieux, si tant est qu'une chose pareille puisse exister. Et là, je crois que l'enjeu nouveau, du point de vue, l'enjeu fondamental nouveau de ce point de vue qu'on voit, qu'on commence à apercevoir à l'œuvre, ça porte sur l'idée de l'homme et de l'humain. Qu'est-ce qui définit l'humanité dans la mesure où la politique démocratique, in fine, se détermine en fonction de ce qu'elle estime être la véritable humanité de l'homme, donc les dimensions à privilégier, et dans cette humanité, la manière de les faire advenir et de les faire coexister à l'intérieur d'une collectivité. Je crois que c'est ce qu'on appelait traditionnellement l'humanisme, mais qui prend ici un nouveau sens. Il y a un lien entre démocratie et humanisme qui est très difficile à démêler. C'est pas... mais qui ne se résume pas à ça, dans ce mot juridique, même s'il a bien d'autres implications qu'on appelle dignité humaine en général. Et dans le contexte où nous sommes, nous avons parlé essentiellement d'économie, on voit très bien qu'un bon nombre d'aspects du fonctionnement de nos sociétés économiques actuelles troublent ou mettent en question carrément, non pas simplement des individus dans leur vie concrète, mais une idée de l'humanité. À commencer par celle c'est une question très ancienne qui s'est posée dans le mouvement socialiste, mais qui n'a jamais été traitée pour elle-même. Quel est le but de l'existence pour chaque individu ? Il y a une réponse de l'économie à cette question. La réponse étant la maximisation de ses ressources de toute nature. Est-ce que c'est ça le but normal qui colle avec ce qu'on peut se représenter de l'humanité dans ses possibilités, puisque ça devient à un certain moment un but exclusif. Le reste n'existe pas. Je crois que de ce point de vue-là, indépendamment d'une foi religieuse déterminée qui a sa légitimité, le rôle social de la foi est essentiel. Je sais que aux États-Unis, il y a toute une théologie de l'économie, une inspiration assez douteuse qui se résume dans des slogans du genre « Ethics pay ». C'est-à-dire, si vous vous conduisez en bon chrétien, vous allez gagner à la loterie nationale, en gros, ou de réussir en affaires. Bon, c'est peut-être pas le fin mot de la chose. On peut espérer des élaborations plus sophistiquées. D'ailleurs, j'observe avec bonheur que dans le monde européen, y compris protestant, calviniste à l'américaine, ce genre de thèse n'a pas le même retentissement. Ça veut dire qu'on a quand même un enracinement culturel un peu différent. Mais le point philosophique qui reste à élaborer, c'est justement qu'est-ce que une foi religieuse implique comme idée de l'humanité en général. Et après, on peut la spécifier selon des traditions religieuses différentes, évidemment, mais je crois que dans tous les cas, on sent philosophiquement qu'il y a un lien naturel entre l'idée de l'humain et la vocation de l'humain à la foi religieuse, qui mérite d'être élucidée et qui l'a très peu été, en fait, puisque le cadre théologique a une sorte de bien naturel qui est de privilégier la définition du contenu de la foi par rapport au fait même qu'elle existe. Je me suis fait, pour avoir avancé une idée de ce genre devant un vénérable théologien un peu âgé, il est vrai, méchamment réabroué en disant « mais on s'en fout de la foi, le problème c'est qu'est-ce qu'il vous dit ?» Évidemment, mais c'est une réponse parfaitement intelligible. Mais je crois que néanmoins, il y a une vraie question. Alors, rapidement sur le reste, rapidement étant... un mot de trop par rapport à des questions énormes. Sur la réforme, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans la doctrine luthérienne. Elle est un point de départ. Mais là, je crois qu'on ne peut bien comprendre la réforme que comme un mouvement historique qui court au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Je pense par exemple que le méthodisme représente une date majeure dans l'histoire de la réforme et qu'il faut la comprendre en continuité avec le geste inaugural de Luther. Un geste inaugural qui est tout de suite, y compris pour des raisons politiques, débordé par la lecture calviniste. Et la lecture calviniste va donner elle-même des petits qui, tout en se réclamant de Calvin, peuvent être assez différents de ce qu'il propose. Et la grande différence entre Luther et Calvin, c'est justement que Luther enferme le christianisme dans l'état séculier, pour faire court, n'est pas Calvin, du tout. Et la suite, moins encore. En fait, Luther, c'est d'une certaine façon le premier penseur du droit divin des autorités au sens moderne du mot, pas le droit divin qui existe dans la tradition chrétienne depuis le point de départ, mais l'idée que le prince laïque est l'autorité religieuse suprême. Ça, c'est un moment du mouvement enclenché par la réforme, mais un mouvement qui ne va pas être exclusif d'abord et qui ensuite va avoir des élaborations historiques qui conduisent ailleurs, dans une autre direction. Alors, je laisse de côté la question kantienne parce qu'effectivement elle est centrale philosophiquement dans mon problème. Peut-être aura-t-on l'occasion de la reprendre avec Frédéric Brahmi tout à l'heure. Mais là, c'est quelque chose qui demande effectivement beaucoup de temps. Alors, même chose, je reviens à propos de Karl Polanyi, auteur que je vénère particulièrement et dont je peux me vanter d'avoir été le responsable de sa publication en français. Donc je ne vais pas dire que ce n'est pas un auteur qui m'intéresse. C'est un livre qui était passé complètement à côté de l'espace intellectuel français. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais c'est un fait. Mais justement, Il me semble qu'il a une lecture, par rapport à ce qui s'est passé avec les totalitarismes, il a une lecture trop réductrice sur le plan de l'économie. L'économie joue un rôle majeur dans ce sentiment de désarticulation des sociétés auquel et la privatisation des biens fondamentaux, évidemment, dans lesquels les totalismes ont été une réponse, mais ça n'est pas la seule. Et ce n'est pas le seul ressort. Et c'est justement ça que j'ai essayé de mettre à lumière au travers de la notion de religion séculière bien comprise. Il s'agit d'une forme d'ensemble de la société dont l'économie n'est qu'un rouage, finalement. Le problème avec l'économie, c'est que l'économie, c'est un problème épistémologique passionnant. C'est un point de vue global sur le fonctionnement collectif. Mais c'est un point de vue global sur le fonctionnement collectif qui cache d'autres points de vue possibles sur le fonctionnement global de la vie collective. Voilà. D'où la tendance spontanée, dès qu'on entre dans les problèmes de société ou les problèmes politiques par le biais de l'économie, de ne voir que l'économie. Ce qui fait que, évidemment, je souscris tout à fait à votre appréciation sur la théorie et standard des manuels d'économie d'aujourd'hui, qui n'est pas que fausse. Elle est fausse si l'on croit qu'elle décrit convenablement la manière dont fonctionne même la société économique. Mais c'est un mensonge d'un genre particulier, puisque c'est un mensonge qui conditionne une action concrète selon le mensonge. Alors, un mensonge qui a la capacité de créer des effets réels, ce n'est pas un mensonge ordinaire. Si c'était parfaitement irréel, on n'aurait pas trop de mal à s'en débarrasser. Ce qui fait que je crois qu'il va falloir de gros efforts pour la remettre à sa place, c'est que, justement, elle est branchée sur une activité réelle qu'elle inspire. Elle est capable de créer des effets dans la réalité extrêmement puissant. Au point que, en gros, on peut décrire comme ça la marge de nos sociétés, nous préférons le mensonge économique à la réalité de notre fonctionnement politique et social global. C'est pas une situation banale. Le mensonge est préférable à la réalité, si je peux dire. C'est pas tout à fait ordinaire comme situation, et ça veut dire qu'il est difficile, évidemment, d'en sortir. Voilà.
Merci beaucoup. On a peut-être de prendre quelques instants s'il y a des questions dans la salle.
Je remercie le ciel de m'avoir fait passer aujourd'hui même devant la porte de l'école pratique des hautes études, car mes amis philosophes du lycée Louis-le-Grand m'avait piégé avec une question sur laquelle je suis obligée de réfléchir en tant qu'historienne et géographe, à savoir, les peuples n'ont cessé de lutter contre l'imprévisibilité du monde et la chaotique incertitude, Hannah Arendt. Devant le désarroi des peuples et de nous-mêmes, quels outils nous aideraient à percevoir le monde dans son désarroi et sa folie? Et ensuite, pour l'historienne que je suis, que nous apprend l'histoire de nous-mêmes? L'histoire vécue est-elle essentielle pour comprendre, entendre le présent? Alors, j'avais réfléchi tout de suite à l'histoire de la mondialisation de l'économie et de la dérégulation du système financier, à partir de Thatcher, bien évidemment, et puis de Reagan, etc. etc. J'entends bien votre réflexion concernant le socialisme. D'ailleurs, j'ai noté à ce sujet quelques petites choses, car il me semble que lorsque j'étais il y a longtemps étudiante, mes professeurs m'enseignaient que la centrale thermique de Schwarzpumpe en Allemagne de l'Est était un exemple fabuleux de la réussite socialiste. Comme on était jeune et donc on y croyait. Plus tard, on a défilé en disant « Ho Chi Minh vaincra hein, ». Bon. Et alors là, bizarrement, je me retrouve avec une situation où la religion quand même occupe une place importante. Or, en tant que femme, il se trouve que ma mère, qui était institutrice, n'avait pas le droit jusqu'en 1964 d'aller chercher de l'argent de son propre traitement. Par ailleurs, dans la patrie des droits de l'homme, nous avons eu le droit de vote après, je me souviens bien de ça, après les Britanniques et même les Turcs. Et l'expérience qu'ont eue les femmes du christianisme n'a pas toujours été très positive. C'est-à-dire qu'une femme était toujours sur la tutelle de son mari. Ses biens étaient quasiment confisqués, si ce n'est par le fils aîné de la branche aînée de la famille, etc. Bon, alors là, il se trouve que je me rappelle aussi que on a dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Certes, je veux bien le croire. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites dans votre livre de 780 pages que je lirai avec plaisir. Mais en même temps, je me demande si vous avez réfléchi également sur le rôle des femmes dans les trois principales religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il semblera néanmoins que nous soyons toujours les grandes oubliées de l'histoire.
Vous avez bien compris d'abord la limite du propos. Nous parlons essentiellement de ce qui s'est passé, certes à l'échelle du monde, mais à partir du foyer européen et occidental. Donc je laisse de côté, j'ai laissé soigneusement de côté toutes les questions de la globalisation au sens de l'unification planétaire. Mais je crois justement que quand vous lirez le livre, que j'ai fait une place tout à fait considérable dans la révolution des droits, qui est un élément clé de l'analyse du monde contemporain, à la condition féminine. Ce n'est pas du tout oublié dans le tableau. Donc, non seulement ce n'est pas, en l'occurrence, des oubliés de l'histoire, mais c'est un moteur de l'histoire de premier plan. Ça... Ben justement, je parle d'un second moment des droits de l'homme à propos du moment où nous sommes par rapport au premier qui se situe à l'époque de l'Olympe de Gouges, c'est-à-dire en gros la Révolution française, en prenant l'expression au sens époque et pas simplement l'événement lui-même. Eh bien, je crois que ce qui n'était qu'un programme à l'époque de l'Olympe de Gouges a pris une consistance réel dans le contexte où nous sommes, qui mérite d'être considéré de près. Ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée, mais il s'est passé quelque chose d'important.
Je pense qu'on a pris le temps de laisser la parole à Nathalie, justement pour parler du flux global de la transformation récente.
Voilà. Oui, alors en fait j'aurais aimé faire des commentaires parce que ça va soulever certaines choses, mais donc je vais l'incorporer à ma présentation, je vais être obligée de faire des petites parenthèses pour y faire attention. Alors d'abord la première chose que je dois dire, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une communication en français, donc je vous prie de m'excuser, mais j'ai besoin de mes notes. Je vais être obligée de lire un petit peu. Hein. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que, et c'est probablement parce que je vis à l'autre bout du monde, aux antipodes, qu'une des choses qui m'a le plus frappée à la lecture du Nouveau Monde, c'est le fait que Marcel propose une interprétation qui m'apparaît résolument européenne, premièrement, de la mondialisation, et en même temps résolument optimiste. Donc, je vais essayer justement de regarder ces deux aspects, résolument européen et résolument optimiste. Mais en même temps, ce qu'il faut souligner, et évidemment ça m'intéresse parce que je suis, en plus d'être politologue, je suis européaniste, qu'est-ce que c'est, mais justement, aux antipodes, ça a un sens. Cette interprétation est en fait radicalement opposée à la doxa qui s'est opposée en Europe même, et en parallèle avec le processus d'européanisation. Et donc c'est toute cette question, et justement après ce que j'ai entendu, c'est devenu encore plus clair dans mon esprit qu'il y a tout ce problème entre quel est le rapport exact entre mondialisation et européanisation. Donc, il y a eu toute une doxa qui s'est construite en Europe en parallèle avec le processus d'européanisation et en particulier avec la construction de l'Union européenne. Et c'est une doxa qui a paradoxalement empêché les Européens de comprendre la mondialisation et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, peut-être les prive de la capacité d'y défendre leur place. Et je pense que ça, c'est une idée que Marcel lui-même a avancée. Donc, en opposition à cette doxa qui est extrêmement puissante, le Nouveau Monde propose une analyse de la dialectique entre nationalisation et internationalisation qui, selon lui, définit la mondialisation contemporaine. Et cette dialectique est en train de transformer comment tous les États-nations se définissent de l'intérieur même. Et c'est l'aspect le plus intéressant, je crois, mais peut-être le plus complexe, et je ne prétends pas avoir tout compris, que propose l'analyse du Nouveau Monde. Et je cite, « L'extérieur est à l'intérieur même. L'intérieur se détermine de sa forme même en fonction de l'extérieur. » Donc, un rapport totalement différent d'interpénétration entre l'intérieur et l'extérieur qui caractérise notre mondialisation contemporaine et qui est en rupture avec une étape précédente que Marcel décrit comme une étape d'introversion sociale qui a dominé dans le sillage de la première mondialisation. Mais j'aimerais bien revenir à cette histoire donc, du rapport entre européanisation et mondialisation. Et la question du malentendu européen, si on veut, je crois que c'est l'expression que Marcel utilise. Comme le dit Marcel, la vérité est que les Européens ne savent pas ce qu'ils ont bâti. Et ils ont longtemps cru que ce qu'ils avaient bâti était en fait à l'encontre de la mondialisation. Et cette méconnaissance des Européens vis-à-vis de ce qu'ils ont eux-mêmes créé est bien évidemment au cœur de la crise contemporaine de l'Europe. Et en plus de toutes les autres choses dont parle le Nouveau Monde propose une analyse de la crise européenne, spécifiquement, que je trouve personnellement particulièrement éclairante et convaincante. Donc, selon Marcel, cette crise a son origine dans un malentendu constitutif qui remonte aux années 50 et indissociable d'une espèce de chassé-croisé idéologique entre l'Europe et les États-Unis. Et alors, ça me permet de faire un pont à ce que nous avons entendu, parce que justement, il y a aussi la question de à quel moment est-ce que le néolibéralisme entre dans la mentalité européenne. Et il me semble qu'il faut parler de Raymond Barre. C'est-à-dire bien avant le tournant socialiste, le néolibéralisme par le biais du monétarisme entre dans la pensée européenne et justement alimente la construction européenne et l'utopie européenne dont nous avons parlé. Mais dans le Nouveau Monde, Marcel qui brasse tellement de problèmes, en parle relativement rapidement de cette histoire de l'Union européenne et il se concentre surtout sur l'ère ouverte par la chute de l'Empire soviétique. Donc je vais parler juste un petit peu de ça. Évidemment, l'ère post-soviétique, on le sait, a d'abord été caractérisée par le triomphalisme américain. Et donc le Nouveau Monde suggère que la vision d'une planète libérée des rivalités idéologiques sous la tutelle bénévole des États-Unis a donné une nouvelle impulsion à une forme encore plus globalisée de capitalisme qui est apparue dans les années 70. Puis, dans les années 90, à un tournant important, l'essor de ce capitalisme a encouragé une interprétation spécifiquement européenne du nouveau leadership des États-Unis, de leur idéal d'un monde unifié en premier lieu par les échanges économiques contractuels. C'est une interprétation foncièrement fausse, parce que la vision américaine de la globalisation s'appuyait en fait sur la foi des Américains en la supériorité de leur propre État-nation. Et puis tout le monde allait suivre, quoi. Leur croyance en leur mission universelle. La vision américaine n'était donc aucunement basée sur l'idée que l'État-nation pouvait ou devait être dépassé, comme les Européens l'ont cru dans leur propre quête d'une gouvernance multilatérale. Et je suis absolument d'accord sur l'importance du livre de Ravi Abdellah sur la vision. Et le livre de Ravi Abdellah suggère que la mondialisation a été française. Un grand, grand paradoxe. Donc, mais pour revenir donc à cette histoire, donc les Européens, eux, ont cru que leur quête d'une gouvernance multilatérale était en fait totalement en accord avec ce que les Américains voulaient. Et bon, il y avait aussi le fait qu'ils ont été libérés de l'impératif de défense militaire qui avait été imposé jusqu'alors par la guerre froide. Et de par leur histoire, à ce moment-là, les Européens ont interprété littéralement la vision américaine de globalisation marchande, le recyclage, ce que Yanis Varoufakis, l'économiste qui a été aussi ministre, appelle le Minotaure américain, qui est cette entreprise de recyclage de la richesse mondiale vers la finance américaine. Et ils ont cru, les Européens, à une convergence avec leur propre projet, qui était en fait des naissances totalement différentes. Et donc ça fait rentrer l'explication que donne Marcel de ce qui se passe aussi à l'intérieur des sociétés européennes. Donc il y a cette interaction entre la dimension intérieure et la dimension extérieure. Parce qu'en même temps, il y a une transformation des sociétés européennes, la perte d'autorité politique verticale des États-nations européens encouragée par, entre autres, à l'extérieur par l'européanisation, à l'intérieur par, pour aller vite, la sortie de la religion, a accentué l'individualisation des sociétés européennes, ce qui, en retour, a consolidé la croyance qu'elles vivent dans une ère post-politique et post-nationale, qui semblait être voulue également par les États-Unis, mais grosse erreur. Et donc, à ce moment-là, la logique à la fois économique et juridique de l'Union européenne semblait correspondre parfaitement à cette nouvelle époque qui semblait aussi être voulue par les États-Unis. Et le Nouveau Monde suggère, l'Union européenne est par la suite devenue la zone où la logique politique de la mondialisation est devenue à la fois la plus active et la plus ressentie. Et ça, c'est une idée qui bouscule énormément d'idées préconçues sur la mondialisation et qui se rapporte à ce que j'ai dit, a été ébauché un peu dans la première discussion, c'est quelle est la place de l'européanisation dans l'histoire de la mondialisation, à mon avis, beaucoup plus importante qu'on ne le reconnaît normalement. Donc, comme le montre le Nouveau Monde, la croyance européenne en la convergence avec les États-Unis, c'est révélement totalement illusoire. Bon, il y a le moment des attaques terroristes de 2001 qui ont montré que les États-Unis continuaient à fonctionner dans le registre classique de la souveraineté, de la puissance nationale militaire. Et cette réaction a révélé à quel point le pacifisme européen était incompréhensible pour les Américains. Et Marcel utilise une formule que je trouve absolument étonnante, qui est cinglante, pour résumer les conséquences de ce qu'on peut appeler un quiproquo entre Américains et Européens. Et je cite, « Les Européens errent depuis lors dans les ruines de leurs propres rêves éveillés, incapables de prendre la mesure de ce qui s'est inventé chez eux. » Et cette phrase ne parle pas seulement évidemment de la situation contemporaine, mais comme j'espère pouvoir le montrer, de la signification de l'État-nation, une invention européenne par excellence. Et j'ajouterai, non seulement ça les empêche de prendre la mesure de ce qui s'est inventé chez eux, mais de le défendre aussi. Et ce sera aussi, j'espère, si j'y arrive, une idée sur laquelle je voudrais m'arrêter. Donc, soit dit en passant, dans ma perspective d'européaniste, si on veut, je pense qu'on peut remonter, donc, j'ai parlé de Raymond Barre, donc j'ai parlé des années 70, donc il y a eu une révolution néolibérale en France précédant le tournant socialiste, mais il faut retourner aussi aux années 50. Parce qu'il y a déjà un chassé-croisé entre les États-Unis et les Européens, tout au niveau de ce projet du fédéralisme qui a laissé une empreinte durable sur la façon dont la bureaucratie européenne s'est accordée la mission de mettre fin au nationalisme. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ces points de détail de l'histoire des institutions européennes, de l'européanisation. Je veux arriver à ce qui est le point fondamental de la discussion de la mondialisation dans le Nouveau Monde. Et j'espère que ça me permettra de montrer que paradoxalement, donc, le Nouveau Monde finit par réaffirmer une espèce d'exemplarité de l'histoire européenne. Mais en fait, en tout terme opposé à l'exemplarité revendiquée par l'Union européenne elle-même. Dans la première décennie du siècle, dirons-nous, ils ont un peu fait marche arrière, hein, mais et en rapport avec cette utopie socialiste, mondialisation gérée, etc. Donc cette réinterprétation de la mondialisation contemporaine remet en question des idées qui sont devenues des lieux communs pendant la première décennie du siècle. Je ne vais pas faire le catalogue, mais bon, il y a l'idée que la mondialisation allait mener à la création d'une société mondiale. L'idée que la mondialisation était un phénomène dont les États-Unis étaient en premier lieu, même exclusivement responsables, j'ai déjà annoncé que je ne le pense pas. Une autre idée, l'idée que la mondialisation est un phénomène de nature essentiellement économique, bon, Marcel l'a bien souligné, c'est bien clair qu'il ne s'agit pas de cela. Le Nouveau Monde bat toutes ses idées en brèche et bien d'autres encore. Et avance l'idée que la mondialisation est bien le triomphe de la modernité scientifique et technologique d'origine européenne, évidemment relayée par le Nouveau Monde, mais aussi de façon bien plus fondamentale, le triomphe de la forme politique de l'État-nation également d'origine européenne. Et ces deux triomphes ne signalent cependant pas le triomphe de la culture européenne ou plus largement occidentale, mais bien au contraire sa provincialisation et peut-être même sa marginalisation. Et là, le travail de Marcel rejoint certains théoriciens de la mondialisation qui justement utilisent cette même expression de provincialisation. Ah, et il est clair que les sociétés occidentales, y compris la société américaine avec Trump et compagnie, sont aujourd'hui confrontées à cette marginalisation qui constitue un facteur important dans la crise de leur système politique. Ah, et cela commence dès, on revient encore aux années 70, avec le succès économique du Japon et la réalisation par les pays producteurs de pétrole de leur pouvoir sur les pays occidentaux et leur modèle social qui dépendait totalement de la croissance économique. Et donc si la croissance économique disparaît, le modèle social entre en crise. La mondialisation, depuis lors, depuis les années 70, a assumé une forme essentiellement paradoxale. Parce qu'il y a une occidentalisation de surface, technologique, économique, scientifique, etc., qui cache une désoccidentalisation politique bien plus profonde, mais avec en même temps le triomphe de l'État-nation. Donc il y a toute une série de paradoxes qui sont difficiles à hiérarchiser. Et donc l'argument du Nouveau Monde, c'est que cette désoccidentalisation politique est devenue pleinement évidente depuis la crise financière de 2007. Donc la mondialisation, pour résumer, apparaît comme l'appropriation de la raison instrumentale occidentale et de l'organisation capitaliste de l'économie par des traditions culturelles qui les ont mises au service de leurs propres objectifs, y compris et peut-être de façon prioritaire pour leurs objectifs identitaires et civilisationnels, on pourrait aller jusque-là. Donc ici, l'analyse du Nouveau Monde rejoint toute une école de pensée, de réflexion dans le domaine de la sociologie historique qu'on appelle multiple modernity, c'est une modernité multiple, donc d'une prolifération de modernité à partir d'un tronc commun. Donc cette réinterprétation de la mondialisation présente un autre paradoxe qui, de façon surprenante, fait ressurgir l'idée d'un exemple européen, mais sous une forme que le Nouveau Monde définit comme essentiellement structurelle, c'est-à-dire indépendante de l'idée que les Européens, eux, se font de leur propre histoire. Le triomphe de l'État-nation est l'aboutissement d'un processus de désimpérialisation. Alors le concept de désimpérialisation chez Marcel est complexe, alors je vais le simplifier à outrance, et j'espère que j'en serai excusée. La désimpérialisation, en gros, est l'abandon d'une aspiration très ancienne, l'aspiration à la domination universelle qui a longtemps subsisté même au sein de l'État-nation moderne, à légitimité, même à légitimité démocratique. Donc, tout en soulignant l'aveuglement européen face à la signification de la mondialisation et peut-être de leur place à l'intérieur de la mondialisation, Marcel suggère dans le Nouveau Monde qu'après la décolonisation et la globalisation capitaliste, la construction européenne a été, et je cite, un chaînon essentiel de la désimpérialisation, qui constitue la spécificité de la mondialisation contemporaine, en contraste avec la première mondialisation de caractère colonial et aussi de caractère essentiellement impérialiste, et dans le sens évidemment pas marxiste-léniniste du terme, vu qu'il s'agit d'un phénomène qui est à la surface capitaliste, mais qui est profondément politique. La pacification donc des États-nations européens est un aspect particulièrement représentatif d'un processus politique, du processus politique qui sous-tend la mondialisation et qui a créé le monde dans lequel nous commençons à vivre, nous commençons à connaître, qui est le nouveau monde polycentrique. Et ceci, suggère le Nouveau Monde, est dû aux potentialités inscrites au sein même de la forme politique de l'État-nation. Donc le monde polycentrique de la mondialisation contemporaine est basé sur l'universalisation de la forme politique de l'État-nation et avec lui de sa légitimité démocratique de base. Et alors, on a déjà parlé un petit peu sur la question des droits de l'homme, l'université des droits de l'homme. Alors, il ne s'agit évidemment que de la définition la plus élémentaire de la démocratie. L'idée que, je cite encore, le pouvoir n'a de substance que s'il est à l'image et au service de la société, parce qu'il est bien clair qu'il y a beaucoup d'États-nations dans le monde aujourd'hui qui ne se rapprochent pas de ce que nous, nous définirions comme des démocraties. Donc, mais c'est ce sens fondamental, élémentaire de la démocratie. Et même si cette acceptation de la démocratie est très limitée, le Nouveau Monde suggère qu'elle a permis la création d'un monde commun, formé par des unités politiques à la fois distinctes et semblables, qui se reconnaissent mutuellement et qui ont accepté donc un principe de pluralisme culturel. Et un monde commun formé par des unités politiques à la fois distinctes et semblables, qui se reconnaissent mutuellement et forment ainsi ce que le Nouveau Monde appelle une pluralité d'égaux. Donc c'est un nouveau chapitre de l'égalité qui se déroule au niveau planétaire, mais il y a eu aussi l'histoire de l'égalité au sein des États-Unis. C'est-à-dire ces deux dimensions, l'articulation entre ces deux dimensions qui est terriblement complexe. Donc le Nouveau Monde présente des analyses qui sont vraiment exceptionnellement subtiles et complexes des conséquences de cette pluralisation, y compris le fait que la guerre totale du XXe siècle est en passe de devenir de plus en plus obsolète. Et alors évidemment, tout de suite, on dit « mais ». Et alors évidemment, je n'ai pas rentré dans la subtilité de l'argument de Marcel, mais c'est clair que ça ne veut pas dire la fin de la violence interétatique, mais sa transformation. Bon, mais je vais passer parce que je ne peux pas rendre compte de toute la complexité de l'argument. Mais donc, pour revenir à cette idée de la création d'un monde polycentrique, et le Nouveau Monde suggère qu'elle était inscrite potentiellement dès le départ dans la révolution du droit qui a créé l'État moderne. Et donc le droit des gens de Grotius au XVIIe siècle a donc ces deux dimensions encore qui sont interconnectées de l'intérieur et de l'extérieur, donc à l'intérieur des pays européens et au niveau de leurs rapports entre eux. Et on a tendance à l'oublier, ou plutôt les disciplines, les relations internationales savent que Grotius c'est ça. Ah, que c'est le début du droit international, et puis les spécialistes des sociétés et de la politologie, eux, se concentrent sur le reste. Donc, c'est le droit des gens a mis en œuvre deux logiques qui ont été en compétition à travers les siècles. Une logique impérialo-nationaliste, c'est l'expression qui est utilisée, mais je crois qu'une ou deux fois dans le livre, mais que j'ai trouvé particulièrement utile, une logique d'ouverture partenariale entre États européens, qui évidemment mène jusqu'à l'européanisation aujourd'hui. C'est cette seconde, qui est une seconde logique d'ouverture partenariale entre États européens, qui a finalement déplacé la première qui pendant longtemps a semblé être dominante, en particulier par le nationalisme. Et donc c'est cette seconde logique qui a déplacé la première pour créer un monde commun basé sur une nouvelle symbolique de l'espace et de son partage entre communautés politiques. Et paradoxalement, et c'est un autre paradoxe, à partir de la mondialisation coloniale qui semblait être absolument l'opposé d'une reconnaissance du pluralisme culturel de la planète, de l'égalité des communautés culturelles. Donc il y a tout un argument, tout un développement sur cette symbolique, que, évidemment je ne peux pas y rentrer, mais qui est très très important. Et donc cette symbolique aujourd'hui établie, c'est ce que Marcel appelle un nouvel mode de l'être ensemble, c'est-à-dire une forme de sociabilité à l'échelle internationale. Et là, l'expression être ensemble est très importante, parce que justement elle transcende la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc cette forme de sociabilité s'est manifestée des années 70, je ne vais pas rentrer dans le détail, la montée des organisations intergouvernementales, etc. C'est tout lié aussi à la notion de société civile. Mais ce qui est important, c'est que ce nouveau mode de l'être ensemble entraîne en fait une redéfinition des États-nations de l'intérieur, leur imposant entre autres une auto-relativation culturelle qui n'est pas facile et qui justement contribue à cette crise des systèmes politiques que nous voyons. Donc revenons à cette idée de l'État-nation comme invention européenne. C'est une forme politique basée sur un rapport radicalement nouveau entre société et pouvoir qui a permis aux États-nations européens de créer, après des siècles, par le biais de l'Union européenne, une nouvelle forme de relation internationale. Et alors c'est là que j'ai été absolument... Je n'ai pas le mot français d'ailleurs, j'ai le mot anglais, flabbergasted. J'étais vraiment incroyablement étonnée par le fait que Marcel, à ce moment-là, paradoxalement, réaffirme la valeur universelle de cette forme de relation internationale en tant que modèle civilisationnel. J'aurais dû devoir venir, en fait, à partir du texte, le problème européen, mais bon, il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Il y a, dit Marcel, dans l'Union européenne, malgré ses dysfonctionnements actuels, une formule d'application générale dans la mesure où l'Union européenne impose aux grands pays de traiter les plus petits en égaux. Dans la mesure où elle a remplacé les rapports de domination par la négociation et le partage d'expériences à l'intérieur d'un cadre juridique commun qui met des bornes à la souveraineté nationale. Le nouveau monde suggère que cette nouvelle forme de relation internationale est, je cite, « riche d'avenir ». Une proposition surprenante qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Parce que vu des antipodes, l'incapacité de l'Union européenne de gérer à la fois la crise économique et politique, ce qui déclenche toutes sortes de protestations dans le reste du monde, que si seulement la croissance économique en Europe pouvait redémarrer, ça arrangerait les autres, ça me semble plutôt disqualifier la capacité d'inspiration de l'Union européenne. Mais... Ah, donc, je dois admettre que je suis restée un peu dubitative pendant un moment dans cette phrase, jusqu'au moment où j'ai compris que Marcel, ici, raisonnait comme toujours dans la longue durée. Il suggère que sur le plus long terme, l'expérience de l'Union européenne pourrait bien révéler sa congruence avec le nouveau monde qui est en train de naître. Et alors, à ce point-là, je suis forcée d'admettre qu'on ne peut pas exclure cette possibilité. Bien. Mais bon... pour arriver à ma conclusion et à mes questions. Donc, je viens de parler de